L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Enfants du Mékong, et c'est Marie-Sylvie et Jean-François Achard qui vont nous parler de cette association qui bientôt va faire son repas annuel le 6 octobre. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler tout ce que fait cette association sur le plan national.
Sur le plan national et bien sûr, la bonjour chers auditeurs, et sur le plan international, puisque nous sommes en Asie du Sud-Est. Alors, comme nous étions la semaine dernière à Asnières pour le forum des délégués, nous avons pensé qu'il était intéressant de vous présenter en fait le bilan sur tous les pays dans lesquels nous intervenons.
Cela fait 7 pays en tout.
Sept pays en tout, oui. Donc, on a notre présidente, comme chaque année, nous a rappelé toutes les problématiques rencontrées en Asie du Sud-Est. Alors, notre présidente, c'est Christine Lortolarine Guyenne. On voit bien, donc, outre qu'elle est médecin à Paris, elle a des origines,
attaches, oui.
Voilà, et des attaches dans ces pays-là. Alors, elle nous a donc d'abord parlé, bien sûr, des pays, des bidonvilles où nous intervenons. Alors, on intervient dans plusieurs bidonvilles, bien sûr, au Cambodge et notamment, surtout, aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, à Manille, où il y a 22 millions d'habitants, il y a 50% des habitants qui vivent dans des bidonvilles. Donc, le problème des bidonvilles est toujours un problème crucial auquel nous nous attelons. Alors, dans ces bidonvilles, bien sûr, on se rend compte que l'approvisionnement en eau potable représente le tiers du budget des populations. Mais elle a aussi attiré notre attention sur d'autres problèmes, un problème important qui est celui de la Chine. Bon, on voit que la Chine s'implante dans beaucoup de pays, et en particulier, bien sûr, en Asie du Sud-Est, puisque elle est frontalière avec... ces pays d'Asie du Sud-Est sont frontaliers avec la Chine. Donc, la Chine cherche plus ou moins à envahir ces pays de manière, qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Nous, on n'en a pas conscience, en fait, disons. Et elle nous a bien attiré l'attention sur le fait qu'il y a le cinquième de la côte cambodgienne, maintenant, que s'octroie la Chine, sur la mer de Chine. Donc, pour la population, il n'y a plus de pêche possible, puisque la Chine s'octroie cette mer de Chine. Elle a aussi attiré notre attention sur des gangs mafieux qui réalisent des trafics d'organes ou des trafics de femmes. Bon, ça, trafic d'organes, on en avait déjà été un petit peu informé quand nous étions allés en Thaïlande l'année dernière, où une responsable de programme, Sœur Sotisa, nous avait dit qu'elle faisait partie au Parlement, donc d'un groupe qui essayait de lutter contre ce trafic d'organes. Bon, il y a le trafic des femmes. Le trafic des femmes, là aussi, on était plus ou moins informés, parce que moi, j'ai une filleule qui habite le nord du Vietnam, aux confins avec la Chine, et sa sœur aînée a été enlevée. Donc, on voit bien que le trafic des femmes se réalise dans ces pays-là, en Birmanie, en Thaïlande. Toutes les frontières sont très fragiles et sont source de gangs mafieux pour ce trafic des femmes.
Alors, vous agissez aussi beaucoup pour l'éducation.
Voilà. Donc, en fait, on cherche à prendre le problème en amont, et c'est par l'éducation. L'éducation, donc, la formation là-bas, scolaire, est basée surtout sur la répétition. Après, il n'y a pas forcément de formation professionnelle. Et en plus, les postes, quand on veut avoir un métier, doivent souvent être achetés, ou c'est un trafic d'influence. Hein. Donc, comment faire agir? Comment Enfants du Mékong agit? Parce qu'on veut, en fait, combattre ces problèmes en amont. Bon, bien sûr, dans les bidonvilles, mais surtout en amont. Donc, on intervient en priorité dans des régions reculées. Les régions reculées, bon, en Birmanie, chez les Kachin, au Laos, auprès des paysans qui ont leurs terres spoliées, et également auprès des minorités ethniques, comme au Laos, et puis même également dans les régions les plus reculées du Cambodge, où personne n'intervient. Donc, sur le plan scolaire, bien sûr, il y a la formation classique pour tout le monde, mais surtout, on va développer le sens critique et développer aussi un esprit d'honnêteté qui est vraiment nécessaire dans ces pays-là.
Et faire des formations professionnelles.
Voilà. Alors, pour faire les formations professionnelles, bien sûr, on va organiser des forums d'orientation pour que les jeunes choisissent différents métiers, le plus généralement vers des formations courtes, parce que ça ne sert à rien d'inonder le pays d'ingénieurs. Donc, pour cela, on va essayer également de créer des ponts avec le milieu du travail et organiser des stages.
Alors, voilà. Cela représente beaucoup de gens mobilisés.
Voilà, donc François va vous parler ce que la prise de parole donc, de notre directeur, Guillaume Daboville, qui lui, c'est un...
Donc Guillaume Daboville a développé plusieurs informations générales sur l'organisation de notre association. Notre association se place est menée par 850 responsables locaux, c'est-à-dire que là-bas, on a des personnes avec qui on travaille véritablement en confiance, parce qu'on travaille avec elles depuis souvent plus de 10 ans, ou même voire 20 ans avec ces personnes. Et c'est ces personnes qui sont véritablement cheville ouvrière de notre action sur place. Depuis 30 ans, nous envoyons des volontaires que nous appelons les bambous, et ces jeunes partent avec le statut de volontaire de solidarité internationale et ils vont là où personne ne va. Ils sont en fait les yeux et les oreilles de l'association parce qu'ils contrôlent en plus le travail que font nos responsables locaux sur le plan financier et sur le plan de la bonne gestion des programmes de développement d'une part et des programmes de parrainage d'autre part.
Alors, vous avez des délégués en Europe ?
Alors, bien sûr, nous avons des délégués en France, mais on en a quelques-uns en Europe, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre. Ce sont des antennes d'enfants du Mékong qui ont pour mission de trouver de nouveaux parrainages et de financer des programmes de développement. Et ces délégués en Europe, ce sont des bénévoles, bien entendu, ils sont plus de 250. À Asnières, la gestion est faite par 30 salariés et nous soutenons actuellement 65 000 enfants, dont 22 000 enfants sont parrainés directement. 3 enfants sur 4 sont fils d'agriculteurs. 1 sur 3 appartient à des minorités ethniques. 500 enfants sont handicapés et 500 enfants sont en camp de réfugiés. Il faut savoir que des camps de réfugiés existent encore. Et ils existent depuis 42 ans, malheureusement.
Alors, au Vietnam, vous avez aussi un peu plus de la moitié de vos parrainages.
Alors, au Vietnam, en fait, on intervient avec 16 500 enfants. Et ce sont des enfants en particulier dans les ethnies minoritaires. Alors, je vais citer simplement les Kin, les Hmong, les Khmer, il y en a d'autres. Hein. Et on recherche actuellement 700 parrains, dont 12 pour des parrainages collectifs. En Thaïlande, on a actuellement 2500 filleuls. Donc, c'est moins, bien sûr, qu'au Vietnam. Mais on intervient dans 9 camps, des camps de réfugiés, pour les Karen, donc qui se trouvent à la frontière de la Thaïlande. En Thaïlande, on a également beaucoup de migrants birmans. On a vu par exemple à Thaket, cette ville très touristique où ils vont travailler facilement. Donc on a 5 millions de Birmans qui sont sans papier et qui ne parlent pas le thaï. Donc dans nos centres, effectivement, on leur apprend le thaï. Donc on a en Thaïlande 11 parrainages collectifs qui sont en attente pour ces migrants. En fait, un parrainage collectif, ce n'est pas comme le parrainage individuel. On a une information par la volontaire bambou qui se rend chaque année là-bas, une fois par an, qui nous informe de la façon dont les centres travaillent, qui informe chaque parrain.
Bon, alors nous allons écouter aussi un peu de musique que vous avez apportée.
Oui, c'est de la musique vietnamienne.
Thank you.
Alors, nous faisions un peu le tour des pays dans lesquels Enfants du Mékong agit. Nous avons parlé du Vietnam, de la Thaïlande et au Laos.
Et nous passons donc au Laos. Donc, au Laos, il faut savoir qu'il y a 64 ethnies différentes. Nous avons 7500 enfants qui sont parrainés et malheureusement, nous avons encore 500 enfants qui sont en attente de parrainage. Voilà pour le Laos. En Birmanie, nous y sommes depuis 19 ans. Sur les 55 millions d'habitants, 370 000 sont des déplacés internes avec une augmentation de 2% en 2018. Les déplacés internes, ce sont souvent des gens qui sont déplacés soit à cause de guerre entre les ethnies contre le gouvernement birman, soit ce sont des gens qui sont expulsés de leur maison pour construire des barrages et donc ils mettent des vallées complètes en eau et ils font sortir les habitants de leur maison, ils rasent au bulldozer leur maison et les habitants ne savent plus où aller. Et donc, malheureusement,
On ne les reloge pas.
Et on a l'exemple du petit Birman de notre film « Grandir » qui a été réalisé pour les 60 ans de l'association. Et ce petit garçon, il a mis 4 ans pour intégrer un centre de déplacés internes qui grandit de jour en jour parce que les expulsions sont malheureusement permanentes.
Ils sont aussi chassés par les exploitations minières.
Alors, les familles sont parfois aussi chassées de leurs terres, soit, par la guerre, les créations de barrages ou l'exploitation minière. Il existe
en Birmanie
148 ethnies. Les Bamars sont majoritaires avec 68% de la population. Les Chan représentent 9% et les Karen 7%. Donc, c'est un patchwork d'ethnies qui sont parfois minoritaires, mais par exemple, les Bamars sont majoritaires. Nous avons 2400 filleuls en Birmanie et malheureusement, nous attendons la réalisation de 160 parrainages qui sont en attente. Ça veut dire que 160 enfants attendent d'être parrainés. Voilà pour la Birmanie. Alors, en Chine, nous intervenons dans deux provinces, au Yunnan et au Népal. Au Yunnan, nous avons 160 filleuls et il nous est difficile d'intervenir parce que le pays est sous vidéosurveillance permanente. Donc, on a très
c'est
peu
C'est une province de Chine qui est très surveillée.
C'est la province qui est la plus au sud de la Chine par laquelle arrive le fleuve Mékong. Alors au Népal, deuxième province de la Chine où nous intervenons, nous avons 37 filleuls et nous soutenons une structure d'enfants handicapés. Parce que là-bas aussi, les enfants handicapés sont complètement délaissés. Pourquoi ? Parce que dans leur coutume, on considère qu'ils ont un mauvais karma. Donc
ils
ne sont pas scolarisés, les familles les cachent. Et nous avons encore 30 enfants qui attendent un parrainage collectif au Népal.
Alors aux Philippines, en fait, les Philippines sont notre deuxième pays d'action parce que on paraît débordé par ce pays, hein, avec 104 millions d'habitants. À Manille, par exemple, il y a 250 000 enfants qui travaillent dans les rues. Il y a des lois qui sont très dures pour ces enfants parce que le président Duterte a fait passer une loi qui permet à toute personne de tuer un trafiquant. Donc les enfants, ils se cachent, puis ils forment des milices. C'est hyper compliqué. Donc là-bas, nous avons 3550 filleuls dans 160 programmes de parrainage. Alors, je parlais d'une fondation que nous aidons à Manille, hein, qui fait partie d'un de ces programmes de parrainage. On en a bien sûr aussi sur les îles, à Cebu, etc. Mais à Manille, en particulier, on aide la fondation ANAC DNK par des parrainages collectifs. Alors, nous avons effectivement un parrainage collectif dans cette fondation.
Oui, nous personnellement.
Personnellement, voilà. Donc, cette fondation classe ces parrainages collectifs en trois types. Hein. D'abord, il y a les enfants qui sont abandonnés des rues, donc ils n'ont plus leurs parents, abandonnés complètement. Donc, pour ces centres de ces enfants abandonnés des rues, nous cherchons 14 parrainages collectifs. Ensuite, on a des centres pour les enfants handicapés des rues, là où nous avons le nôtre particulièrement. Et là, on cherche encore 17 parrainages collectifs. Et la troisième catégorie donc, d'enfants que l'on rencontre donc, dans les centres de cette fondation, ce sont les enfants des bidonvilles. Alors là, les mamans accueillent dans des centres, donc ces enfants encore leur famille. Et on y cherche là 13 parrainages collectifs. Bon, nous avons vu récemment un film sur Manille, sur ces enfants des bidonvilles. Et vraiment, on a été bouleversés de voir ces familles qui parfois récupèrent la tombe de leurs parents et s'installent sur la tombe. Donc, vraiment, on voit
n'ont pas d'autre lieu
où aller.
C'est un bidonville qui est installé à demeure le cimetière.
Dans le cimetière. Donc, vraiment, on voit que là, effectivement, notre action est vraiment prioritaire. Alors, au Cambodge, bon, notre responsable y est depuis 1998, c'est Martin Mendio. Donc, bien sûr, à la suite de tout ce qui s'était passé avec les Khmer Rouges. Et lui, il donne la priorité à la scolarisation des filles. 62% des filleuls d'enfants du Mékong là-bas sont des filles. Et les deux tiers sont dans les trois provinces les plus pauvres. Ça montre bien qu'on cherche toujours à agir en amont dans les endroits les plus reculés qui sont délaissés par les gouvernements. Parce que dans ce pays, il y a 30% des femmes qui ne savent ni lire ni écrire et 40% des femmes qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc au Cambodge, nous avons 3100 filleuls, mais on a encore 400 filleuls, c'est-à-dire 400 filles qui sont en attente de parrainage. Alors au Cambodge, on s'est attelé aussi à un nouveau projet qui s'appelle le projet Fontaine de Vie. C'est à Sihanoukville. Donc ce projet accueille donc des jeunes prostituées pour sortir bien sûr de l'influence des gangs chinois de la prostitution. Alors dans ces centres, elles reçoivent par ailleurs dans ces foyers, elles reçoivent des cours d'anglais et des cours de chinois pour apprendre, bien sûr, à se défendre. Donc, dans ce centre, on attend 15 parrainages collectifs. Donc, ça, c'est un bilan un petit peu exhaustif de tous les pays où on intervient. On voit que c'est très divers, qu'il y en a pour tous les choix de parrainage.
Et partout, il y a des attentes.
Voilà.
Alors, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs combien coûte justement un parrainage?
Alors, un parrainage individuel, c'est la prise en charge par une famille ou une personne ici en Europe des frais de scolarisation d'un enfant. Cet enfant, il reste dans sa famille et l'argent du parrainage va donc permettre à l'enfant d'aller travailler. Nous intervenons auprès de familles qui sont extrêmement pauvres et certaines font travailler leurs enfants pour pouvoir les nourrir. Donc, ceux-là, ils ne vont pas à l'école. Alors, un parrainage individuel, c'est 29 euros par mois. Mais c'est défiscalisable à 75%, ce qui fait que pour 7 euros, on rend l'espoir à un enfant. On le sort du cycle infernal de sa misère en lui permettant d'aller à l'école. Nous avons aussi les parrainages collectifs. Les parrainages collectifs, c'est le même prix, mais ça fait vivre un centre. C'est-à-dire que ça permet à un centre de subvenir à ses moyens pour faire tourner ce centre, pour accueillir les enfants, les héberger, les nourrir et les scolariser, bien sûr. Puisque notre cœur de mission, c'est bien la formation des enfants, la formation scolaire des enfants. Le troisième type de parrainage, il coûte 43 euros, c'est pour les étudiants. Parce que comme on intervient dans des zones reculées, il n'y a pas de ville pour faire des études supérieures, quand les enfants sont en capacité de continuer leurs études. Donc on a créé dans ces villes universitaires des centres d'accueil, des petits internats où les jeunes sont hébergés par nos responsables bambou qui ont la responsabilité de faire vivre ce centre. Alors, ce sont des petites unités et elles comportent entre 20 et 25 places. Et la première année, les jeunes sont intégrés, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les locaux de cette petite unité. Et les deuxième, troisième et quatrième années, après, sont par module de deux. Ils vivent chez l'habitant, mais sont rattachés au centre et donc peuvent être soutenus par nos volontaires qui sont responsables de ces centres, avec un soutien scolaire, c'est-à-dire des cours de maths, des cours d'anglais, des cours d'informatique, des cours de français bien sûr, mais aussi un soutien moral, parce que ces jeunes, ils sont complètement déracinés, donc nous les accueillons avec c'est un accueil familial de la part de nos jeunes volontaires bambou qui sont en responsabilité de ces centres.
Oui, donc vous suivez toutes les scolarités depuis
Alors,
le début.
Le principe d'un enfant, c'est quand un enfant donc est pris en charge par enfant du Mékong, notre objectif, c'est de le mener jusqu'à l'emploi. Nous, on s'arrête pas au bac ou on s'arrête pas aux études supérieures. On l'amène jusqu'à l'emploi. C'est-à-dire qu'on le forme tant qu'il souhaite être formé, qu'il fasse des études courtes avec des formations manuelles, soit des études longues, comme des études d'ingénieur. On a beaucoup de jeunes au Cambodge qui rentrent à l'ITC, qui est l'Institut de technologie du Cambodge. C'est la meilleure école d'ingénieurs du Cambodge. Et donc, on les suit véritablement jusqu'à ce qu'ils soient en capacité d'intégrer un emploi.
Alors, nous allons écouter à nouveau un peu de musique. Pour justement réunir tous vos adhérents, vous avez un repas annuel et tous vos sympathisants aussi.
Oui, voilà.
Vous avez ce repas annuel du 6 octobre, dimanche 6 octobre, qui se déroule au château de Flaugergue.
Alors, dimanche 6 octobre, donc à 11h au château de Flaugergue. Donc, on invite pas seulement les parents, mais bien sûr des amis. Et on a même eu la chance de rencontrer lors du forum d'Antigone, des personnes qui étaient intéressées et qui vont venir à ce repas. Donc, c'est vraiment aussi un repas pour prendre vraiment connaissance et contact avec notre association. Alors, chaque année, on cherche à montrer également des témoignages vivants de personnes, même de nos parrains. Alors, cette année, on aura le témoignage d'un parrain qui est allé voir sa filleule au Cambodge, et d'un autre parrain ou d'une marraine, je ne sais pas, ou d'une famille qui a visité un centre de sourds-muets, donc au Laos. Donc, lors de ce repas, on explique bien sûr le fonctionnement de l'association, un peu tout ce que nous venons de dire, mais on aura également un stand de soierie du Mékong et d'artisanat qui est proposé pendant l'apéritif. Alors, on n'a pas parlé des soieries du Mékong. Les soieries du Mékong, c'est une entreprise solidaire qui est créé par Enfants du Mékong et qui nous permet, nous, donc, de demander à Nières un stock de soieries que l'on vend lors de chacune de nos manifestations, en particulier également comme on fait pour les marchés de Noël. Voilà, donc, en fait, ce repas, bon...
Alors, il est suivi d'un repas asiatique. Voilà. Qui est servi avec les vins du château. Donc, le repas comprend donc un apéritif asiatique, le repas, les vins, le café et les sucreries qui vont avec. Et la somme demandée pour ce repas en participation aux frais est de 22 euros pour les adultes et de 11 euros pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Alors, le petit bénéfice que nous faisons sert à financer donc notre projet de développement actuel qui est la création d'une salle de classe dans un internat en Birmanie. Et cet internat accueille 60 jeunes mais ils n'ont pas suffisamment de locaux pour pouvoir donner des cours complémentaires, parce que dans ces pays-là, l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics est insuffisant, et les professeurs sont tellement mal payés qu'ils donnent des cours complémentaires, mais non plus gratuit cette fois-ci, mais payant. Et donc, les familles qui n'ont déjà pas l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école ne peuvent pas payer ces cours complémentaires. Donc, ce sont dans ces internats que Enfants du Mékong rémunère des professeurs pour permettre aux enfants de terminer leur programme chaque année.
Voilà, alors donc, cela va se passer au château de Flaugergue, mais il est encore temps de s'inscrire.
Oui, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, deux façons pour s'inscrire. Soit par téléphone, je vous donne notre numéro de téléphone, notre portable. C'est le 06 60 12 58 02. Soit par Internet, donc à l'adresse suivante, délégation 34, tout se tient, @enfantsdumekong.com. Donc simplement, vous vous inscrivez pour qu'on connaisse exactement le nombre de participants pour commander le traiteur. Après, vous pourrez régler par un chèque sur place le jour du repas.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François et Marie-Sylvie Achard pour Enfants du Mékong. Je passe tout de suite au calendrier des associations de la Maison des Tiers-Mondes et de leurs partenaires. Donc, je rappelle la chose que nous avons annoncée déjà à notre précédente émission. Mercredi 2 octobre, c'est la Journée internationale de la non-violence et le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi et de son épouse. Et pour marquer cet événement, et aussi le début de la marche mondiale des paysans sans terre pour la justice et la paix, Jai Jagat, qui part de New Delhi ce même jour. Donc, à 18h, à la salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, une soirée festive de présentation de cette marche mondiale et des actions locales en soutien à cette marche qui sont organisées par le collectif Paysans sans terre d'ici et d'ailleurs, Héros. Et à 20h30, un concert avec Lo Barut, chant polyphonique occitan et percussion, et Eyoka Mundo, slam engagé avec orchestre. Il y aura buvette sur place, repas partagé où vous pouvez venir avec un plat à partager, participation libre, et infos sur le site https://paysans-sans-terre.non/violence-héros.org. Et du mercredi 2 octobre à samedi 5 octobre, c'est Artisans du Monde qui vous invite à participer au Grand Bazar d'automne de Montpellier. Il y aura un étal sur le trottoir devant la boutique 6 rue Saint-Firmin et deux moments forts. Mercredi 2 octobre, une dégustation sous le signe du Liban, houmous, caviar d'aubergine, zaatar, huile d'olive. Diffusion dans la boutique d'une vidéo sur la coopérative libanaise FTL. Et le deuxième moment fort sera le vendredi 4 octobre avec dégustation de café, présentation des nouvelles boîtes Mexique, Pérou, Éthiopie, diffusion du film en continu sur le café. En même temps, Artisans du Monde apporte son soutien à l'association FASO Savoir qui agit au Burkina Faso pour soutenir l'accès au savoir, à la culture et à l'histoire, en récoltant des romans d'auteurs internationaux et africains, des dictionnaires, des livres d'enfants, des documents, des BD, et une caisse destinée à recevoir des livres sera mise à la disposition du public, donc du 2 au 5 octobre, devant la boutique 6 rue Saint-Firmin. Et puis je rappelle, le 6 octobre, au château de Flaugergue, bien sûr, le repas annuel d'espoir d'enfants du Mékong. Et puis je vous invite aussi pour le jeudi 17 octobre, de 9h15 à 13h, à la délégation de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, immeuble Le Mondial, 219 rue Le Titien, à un atelier d'échange, eau, assainissement, hygiène, Comment accompagner le changement des pratiques, qui est animé par Christophe Brosset du PSO CARI, avec les témoignages de Géraldine Abrami, ingénieure de recherche IRSTEA, URMGO, et Jean-Pierre Mahé, directeur d'Experts Solidaires. C'est organisé par Occitanie Coopération, gratuit sur inscription. Donc, contactez, si vous êtes intéressé dès aujourd'hui, Charles Simon, csimon@coopération.org ou bien au 06 98 48 86 55. Et aussi au calendrier, la braderie d'espoir pour un enfant à Montarnot, samedi 5 et dimanche 6 octobre, de 9h à 18h, à la salle des fêtes. Vous y trouverez de nombreux vêtements, chaussures pour adultes et enfants, du linge de maison, de la vaisselle, des objets de décoration, des jouets, des jeux, des livres, de la brocante, des bijoux fantaisie, des petits meubles, etc. Comptons sur votre présence. Espoir pour un enfant vous remercie de votre participation et vous pouvez contacter Espoir sur un enfant sur contact@espoirenfant34.fr. À bientôt, chers auditeurs.